Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue dans les hors-séries de Slice. Comme vous le savez, je reçois normalement sur le podcast des hommes et des femmes qui ont décidé de reprendre ou de créer une entreprise. On parle donc ici traditionnellement d'entrepreneuriat, de parcours de vie, de challenge, de succès et d'échecs, mais pas que. Avec Slice, on part également à la rencontre de ceux qui aident les entreprises à prospérer. À tous mes invités, je pose cette même question. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit ? Alors avec des dizaines d'épisodes et autant de réponses, il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie de m'intéresser à ces métiers de rêve. Bienvenue donc dans les portraits de Slice pour découvrir de nouvelles histoires de vie. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie d'inaugurer ces portraits de Slice en compagnie de Jean Delalandre qui est venu à mon micro me parler de ses multiples vies. Jean est en effet délégué général du comité Richelieu, maire de la ville de Duclair, conseiller régional, conseiller de la métropole Rouen-Normandie, papa et gentilhomme canardier, même si ça, ce n'est pas marqué sur LinkedIn. Alors avec Jean, nous allons revenir sur sa vie de grand slasher, à commencer par ses rêves de théâtre et son premier poste au sein du secrétariat général des affaires européennes. C'est ensuite à la direction générale de l'armement qu'il opère pendant près d'un an et demi, avant de rejoindre l'UMP en tant que conseiller auprès de Xavier Bertrand, alors secrétaire général du parti. En 2013, Jean devient délégué général du comité Richelieu, qui regroupe depuis plus de 30 ans des entreprises innovantes partout en France, quel que soit leur secteur d'activité. Nous parlerons bien évidemment dans cet épisode du comité et de son action auprès de ses adhérents et de son travail annuel d'observatoire de l'innovation. Et puis nous nous intéresserons à l'autre vie de Jean et à son mandat de maire de la ville de Duclair depuis plus de 8 ans maintenant. Ce sera l'occasion pour nous d'en savoir plus sur le quotidien d'un élu dans une ville de plus de 4000 habitants et j'en profiterai pour faire un point sur les fonctions qui lui sont dévolues en tant que conseiller régional et conseiller de la métropole Rouen-Normandie. Merci encore à Jean d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir trouvé du temps dans un planning, vous le verrez, déjà bien rempli. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. T'es ready ?
Je suis prêt.
T'es prêt ? Bonjour Jean.
Bonjour Marjolaine.
Merci beaucoup de m'avoir rejoint à Paris pour nous parler de ton parcours, de ta vie, de tes professions au pluriel. Cet épisode me tenait particulièrement à cœur parce que c'est un épisode un peu hybride, on le verra. Mais d'abord, tradition du podcast oblige, je voudrais savoir qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit garçon.
Alors, je crois que je voulais faire plein de choses en réalité.
Ouais.
Quand on regarde les dessins, les premiers dessins que je faisais quand j'étais tout petit, je disais je veux conduire un camion. Okay. Bon, alors ça, je m'en suis vite fait écarter. Je sais pas comment. Non. Après, ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait, c'était le théâtre.
Okay.
Voilà, moi j'avais envie de faire du théâtre. Voilà,
classique, c'est la première ou des chose. Nouvelles pièces ou de boulevard.
J'avais
ou...
envie de monter sur la scène.
D'accord.
Et puis de dire des choses.
D'accord, voilà. Ok, très bien. Est-ce que dans ton parcours scolaire, tu fais du théâtre, tu suis un parcours pour devenir théâtreux ?
Bah, dans mon parcours scolaire, alors il y a eu justement, et je pense que ça a aidé, il y avait, d'où l'importance des interventions réalisées dans les écoles,
ouais.
Dans le domaine culturel notamment. Et donc nous, il y avait une personne qui venait pour un atelier théâtre, et puis j'ai bien aimé,
ouais.
Et puis, bon j'avais le premier rôle.
non, mais c'est pour ça que t'aimais bien.
Et puis j'étais juge, j'ai eu un rôle de juge et un rôle de commissaire.
Très bien.
Donc quand j'étais à l'école élémentaire, et puis je me suis dit bah tiens j'aurais envie au-delà de l'école de suivre des ateliers de théâtre.
Okay.
Et puis je suis allé à Duclair, je n'étais pas de Duclair mais je suis allé à Duclair qui était la commune
une
voisine,
ville de Normandie,
une très belle ville en Normandie au cœur de la Seine-Maritime et à l'ouest de la métropole Rouen-Normandie. Je suis allé dans cette ville où il y avait un atelier de théâtre qui était donné par la même personne celle qui était intervenue dans mon école. Je m'y suis inscrit, c'était tous les samedis et ça a duré 12 ans. Donc
ah oui,
pendant 12 ans, j'ai fait du théâtre, de différentes natures et ça m'a beaucoup plu.
J'ai lu sur tes réseaux que tu étais fils, petit-fils et arrière-petit-fils de fabricant ou vendeur de chaussures, c'est ça ?
Alors, ça dépend de qui on parle, mais il y a eu des fabricants de chaussures qui étaient au Metz-sur-Èvre, à côté de Cholet.
Et ça t'a pas dit, cette carrière pour toi, reprendre un peu le... Je sais pas, moi...
Ça reprend la notion de scène d'une certaine manière parce que moi, mes arrière-grands-parents fabriquaient des chaussures, mes grands-parents vendaient des chaussures, mes parents aussi. Et donc, moi, j'étais régulièrement dans le magasin.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce que je faisais dans le magasin ? Eh bien, je vendais des chaussures. j'aidais à vendre, etc. Et puis, mais aussi sur les marchés parce qu'en plus, mon père faisait en plus les marchés en complément du magasin. Et qu'est-ce que c'est ? C'est vendre un produit, c'est... Prendre la parole, c'est pas avoir peur, c'est être à l'aise. Et finalement, entre ça, entre le théâtre, voilà, il y a plein de choses qui se recoupent.
Ok, donc 12 ans de théâtre, et puis parallèlement à ça, un cursus scolaire normal.
Oui, un cursus plutôt classique.
Ouais, j'aimais bien l'école. ES, voilà. L, tu choisis quoi comme filière ?
J'étais ES.
T'étais ES, d'accord.
Voilà.
T'avais une idée de métier autre que le théâtre pour après le bac ?
Non, à ce moment-là, lorsque j'étais au lycée, je continuais à faire du théâtre, j'aimais le théâtre, et je me disais certainement, sans avoir d'idée précise, que je ferais autre chose,
d'accord.
Mais je savais pas quoi.
D'accord.
Et j'avançais, et ce que j'ai toujours fait, c'est comme ça que j'ai été élevé, j'avançais à chaque fois en me disant, je fais ce que j'aime.
Et on verra.
Et puis ce que j'aime m'amènera
à quelque chose que tu aimeras. Quoi.
Exactement.
D'accord, donc tu passes ton bac, tu réussis avec brio.
Que je réussis avec brio, avec mention.
Ah, waouh.
Non, je passe mon bac, ça se passe bien, mais j'adorais l'histoire, j'adorais la philo, et puis l'éco, et donc ça se passe bien, et ensuite je rentre à la fac de droit de Rouen.
C'est intéressant, quel cursus tu veux faire quoi là ? C'est toujours, tu as choisi ça juste par passion, par amour, parce que ça te semblait intéressant
Derrière ça, il y avait aussi, et encore, la question de la prise de parole. En fac de droit.
Avocat, juge, c'est vrai.
Très rapidement, je m'inscris dans les concours d'éloquence.
T'as jamais eu cette peur ? La peur justement de l'audience qui te regarde, qui te juge, qui te. Bon, on le verra après dans le suite de ta carrière, si t'avais peur de te mettre en avant, ça aurait été problématique. Mais t'as jamais eu ce truc, genre si je me plante, le trac, t'as jamais eu le trac ?
Oui,
ouais.
J'avais le trac. Fallait que je boive un peu d'eau.
J'ai peur. J'ai cru que t'allais boire.
Non, il fallait que je boive de l'eau. Je bois toujours beaucoup d'eau d'ailleurs. Mais il fallait qu'avant de monter sur scène, je boive de l'eau
Concentration.
Mais je me souviens parce que tu es de Lyon.
Oui.
Bon, voilà. J'ai joué au théâtre des Célestins de Lyon.
Ah oui.
Dans le cadre d'un concours de jeunes qui était organisé je crois que c'était en Alsace. On avait gagné un concours de théâtre.
Mais carrément, en fait, tu faisais pas juste du théâtre dans ta ville, tu faisais des concours aussi en France et tu te baladais pour jouer.
On postulait, on participait à des concours avec notre compagnie, notre troupe. On est allé au Canada, on est allé à plein d'endroits.
Ah non, mais carrément. Ah oui, d'accord.
Et un jour, on a gagné. Oh. Et puis, le prix, c'était le plus beau prix. C'était pas de l'argent, c'était pas un voyage, c'était jouer au Théâtre des Célestins de Lyon.
Et tu jouais quoi ?
Ça s'appelait La Déprime. Et c'était une pièce canadienne.
Ok, d'accord. Merveilleux souvenir donc.
Ouais, très bon souvenir. Et puis encore une fois, quand on fait du théâtre, on aime l'esprit de troupe, on aime le fait de prendre la parole au public évidemment, et puis on aime les lieux dans lesquels on va. Et donc monter sur les planches, j'avais de la chance à Duclair, il y a un très beau théâtre, et puis de se dire on va à Lyon et là on joue au théâtre des Célestins. C'est un beau souvenir. Voilà, je suis pas comédien, je suis pas acteur, mais j'aurais eu le plaisir de jouer sur les planches du Théâtre des Célestins à Lyon, et rien que ça, c'était
bon,
une très belle histoire.
Tu joues toujours ?
Non. C'est fini.
Dans le Théâtre de Duclair, on pourrait pas venir te voir.
Non, je monte sur les planches du Théâtre de Duclair, on va en parler, mais pas pour jouer.
Ok, donc tu es à Rouen, tu fais un cursus de droit.
Oui.
Donc, et ensuite, qu'est-ce qui te fait partir à Paris ? Parce que tu vas continuer tes études... en droit public comparé et en droit communautaire, droit européen communautaire. Ouais. Pourquoi tu pars de ta Normandie, de Rouen ?
Alors, j'ai toujours considéré qu'il fallait pas oublier d'où l'on venait. C'est bien d'avoir des racines, des accroches, mais c'est bien de regarder, de savoir regarder ailleurs, de s'inspirer de ce qu'il y a ailleurs, de s'ouvrir tout simplement. Et donc d'ailleurs, avant de partir à Paris, je suis parti à Madrid.
Oui,
parce que j'ai fait ma troisième année de droit en Erasmus à Madrid.
Ah, Erasmus.
Et il se trouve que ça tombe en termes de timing au moment où il y avait un film qui sortait qui s'appelait L'Auberge espagnole.
Ah oui.
Ça tombe juste à ce moment-là. Et j'adorais l'espagnol aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'adorais la langue espagnole, j'adorais les cours d'espagnol. Et je me suis dit, je pars à Madrid. Okay. Et j'ai vécu, alors faut jamais trop dire ça aux gens qui partagent notre vie à l'instant où on parle, mais j'ai vécu une des plus belles années de ma vie en partant dans cette ville magnifique. Il y a un livre d'Hemingway, ouais, qui s'appelle « Mort dans l'après-midi ». J'encourage tout le monde à le lire. C'est pas le livre le plus simple à lire parce que ça parle de la corrida.
Ok.
Et depuis la sélection des taureaux jusqu'à la mort, ouais, du taureau. Et dans ce livre, il parle de l'Espagne. Il va à Madrid et puis il est assez déçu finalement,
okay,
par Madrid. Madrid, ça correspond pas pour lui. En tout cas, au premier coup d'œil, ça correspond pas à ce qu'est l'Espagne. L'Espagne, okay, pour lui, c'est autre chose. Et finalement, il retrouve davantage l'Espagne dans ses vies, dans Cordoue, tout, ouais, ce qu'on veut bien. Et puis, à la fin de son voyage, il retourne à Madrid. Et sa conclusion, c'est Madrid est la plus espagnole de toutes.
Ok.
Et j'ai un peu vécu ça. Alors, le premier coup d'œil, ça passe quand même très vite, parce que moi, j'ai très rapidement aimé Madrid. Mais voilà, je pense que c'est certainement la plus espagnole de toutes. Et ça renvoie à plein de choses pour tous ceux qui connaissent l'Espagne. Donc voilà, bref, j'ai été marqué par l'Espagne et par Madrid dans ma vie. Même si aujourd'hui, je n'y vis pas, j'essaie d'y retourner le plus souvent possible.
Tu conseilles Erasmus à tous nos auditeurs étudiants qui se poseraient la question ?
Alors, évidemment, alors il se trouve, on n'en a pas encore parlé, allez, je vais spoiler.
Un petit spoiler,
mais
ouais.
Il se trouve que je suis maire et que je rassemble tous les ans les nouveaux bacheliers.
Oui,
et
ça,
souvent,
ouais,
ils viennent avec leurs parents. Et je sais bien qu'au moment où je dis ça, les parents soit m'adorent, soit me détestent. Ils ont plutôt tendance à me détester parce que je leur dis... Partez,
ouais,
partez. Et puis si c'est pas Erasmus, c'est autre chose.
Oui, oui.
Ça peut être dans une autre ville de France. Mais partez, allez voir d'autres choses. Vous reviendrez ou pas. Mais partez, c'est certain que vous ne regretterez jamais d'être parti. Alors que si vous ne partez pas, peut-être qu'un jour vous regretterez de pas être parti.
Ouais.
Donc oui, je dis à tout le monde, vivez cette expérience d'aller rencontrer d'autres cultures, d'autres langues. C'est formidable.
Ok. Et donc à Madrid, tu es toujours en cursus de droit?
Oui, à Madrid, ouais, je suis toujours
en cursus de droit.
De, okay, droit, et donc là, du droit international, du droit, notamment droit international public, du droit du travail espagnol,
ah,
du,
ouais,
droit constitutionnel, un cours de sciences politiques avec un homme, pour tous ceux qui suivent la vie politique espagnole, qui a été très connu à une époque, qui s'appelle Jorge Vestringe, Georges, okay, Vestringe, okay, parce que la réalité, c'est qu'il est d'origine française.
D'accord.
Mais il était là-bas et c'est un prof que j'ai aussi beaucoup apprécié.
Après, c'est fédéral, l'Espagne, donc au niveau du droit...
Alors, il y a un droit des autonomies,
ouais,
espagnoles, donc c'est un pays très décentralisé,
oui. Oui.
ça c'est certain, qui fait penser un peu à l'Allemagne finalement, sous cet angle-là. Après, il y a différentes influences dans le droit espagnol, donc ils sont aussi assez proches de nous, ils font du code Napoléon, enfin de plein de choses, et puis leur, ouais, histoire... constitutionnelle est aussi assez, assez intéressante. Voilà,
c'est des Bourbons, hein. Donc,
il y a un petit lien avec la France,
hein,
quand même.
Hein. Ouais. Ok. Du coup, Erasmus se termine au bout d'un an.
Voilà.
Est-ce que tu pars en pleurant ou non ? Ça va quand même, tu vas vers de nouvelles aventures ?
Alors, je ne vais pas spoiler, mais j'y suis retourné en fait après.
Ce n'était pas fini.
Mais je reviens à Rouen.
D'accord.
Et puis je fais ma ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise de droit.
La maîtrise de droit.
Voilà,
okay,
ce qu'on appelle maintenant le master 1. Et puis ensuite, mon troisième cycle, ce qu'on appelait le troisième cycle, donc le master 2, je trouve ce qui me plaît à Paris, à Paris 1 en particulier. Et donc je fais un DEA.
Ça sera appelé
ensuite un Master 2,
d'accord,
recherche en droit public comparé des États européens.
Pourquoi l'Europe ?
Déjà Madrid, déjà ouais. cette ouverture, et puis ça m'intéressait encore une fois de voir d'un point de vue du droit public ce qui se passait dans les autres États européens, si on parlait des libertés fondamentales, si on parlait du droit constitutionnel ou du droit administratif, de voir ce qui se passait ailleurs. Et puis là, il y avait la possibilité de repartir 6 mois. Et je suis reparti à Madrid et j'ai fait un stage au Conseil d'État.
D'accord.
Consejo de Estado de Madrid, et pareil, très bon souvenir.
Ok. À ce moment-là, donc tu es en troisième cycle, comme tu dis, tu as une idée de boulot ?
Toujours pas.
Toujours pas.
Je m'intéresse tout particulièrement au référendum. Je me souviens ouais. parce que j'ai fait mon mémoire sur le référendum, enfin sur les référendums ou assimilés, on va dire. Parce qu'en Espagne, il y a des dispositions bien particulières et puis ça me permettait de les comparer avec ce qui se passait en France. Finalement, cette fameuse question de la participation citoyenne mm-hmm. qui est devenue très à la mode, qu'il l'était moins ou du moins qu'il l'était de manière plus classique à travers ce qu'on appelle le référendum, ouais. même si maintenant il y a plein de déclinaisons.
Donc tu fais ton stage, enfin la fin de tes études au Conseil d'État. Tu aurais pu rester en Espagne ou il fallait rentrer ? Pourquoi tu rentres ?
Je rentre parce qu'il y a le deuxième semestre.
Okay. Okay.
Qui, se fait,
ah
à,
oui, c'est une bonne...
qui se fait à Paris.
C'est une bonne raison.
Et à la fin de ce deuxième semestre, la question se pose, est-ce que je veux me lancer dans un doctorat, je veux faire poursuivre ouais. dans la recherche, ou est-ce que je veux, j'allais dire, aller dans le monde du travail de manière plus franche, plus claire, plus rapide. Et donc là, je me dis oui, j'ai pas envie de me lancer dans un parcours de chercheur en droit. Et je me dis, il faut compléter avec une formation plus professionnalisante. Et là, okay. je fais un master de pro okay. en droit communautaire. Et donc, toujours à Paris. Hein.
Okay.
Et donc, c'est un an d'études en droit communautaire qui s'achève par un stage au secrétariat général des affaires européennes. Et je suis au bureau... traite des questions Euratom, donc de tout ce qui était nucléaire à l'échelle de l'Union.
C'est voilà. à Paris ou non c'est,
c'est à Paris. D'accord. C'est un secrétariat. Alors, il y a plusieurs secrétariats généraux. Il y a le secrétariat général du gouvernement.
Oui.
Il y a le secrétariat, il y a le SGDSN,
oui.
connu par tous ceux qui suivent
sûr,
les
oui.
questions de défense.
Oui.
Donc, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Et puis, il y a le SGMER qui traite des questions liées, enfin, des questions maritimes. Alors, je ne veux pas en oublier, mais à l'époque, il y avait ces trois-là, plus le secrétariat général des affaires européennes. Et en fait, ce sont des structures qui sont toutes rattachées au Premier ministre pour gérer de manière interministérielle des questions qui nécessitent d'être traitées sous cet angle-là. Et donc, avant d'envoyer la position française au sein des instances européennes, ça passe par le filtre du secrétariat général des affaires européennes. Voilà, à l'époque, la secrétaire générale, c'était Pascale Andréani, et ça m'a permis...
Une femme ? Ah, c'était une
femme. C'était une femme, ouais. Et ça m'a permis d'aller de découvrir un peu plus encore les institutions européennes. Et donc voilà, et ça a été très intéressant.
C'est une belle culture.
C'est un lieu très intéressant parce que il a pas les projecteurs ne sont pas braqués dessus,
ouais.
Mais c'est un lieu important dans le cadre de notre fonctionnement et de l'articulation entre l'État français et les instances européennes.
Donc toi, t'es stagiaire, est-ce qu'on te donne quand même des choses à faire ? Est-ce
oui, que parce que ce qu'on appelait le secteur Euratom, parce qu'il y a plusieurs secteurs au sein du SGAE, c'est un petit secteur, c'est un peu un secteur extrêmement doté et en termes de personnel. Et donc non, on me confie des vraies missions. À l'époque, je travaille notamment sur un document, maintenant ça me fait rire avec le recul, sur l'accord de siège d'ITER. L'organisation internationale
okay, ouais.
ITER
ouais.
À Cadarache, il y avait la rédaction de l'accord de siège à ce moment-là. Et donc, moi, je travaille sur ce document au SGAE et puis sur d'autres choses. Mais c'était assez opérationnel.
Et ça te plaît ? Tu t'aurais pu y rester ou...
Je me suis posé la question. Là,
ouais.
À ce moment-là, je me mets à avoir des idées un peu plus précises.
Mmh. D'aller
travailler à la représentation permanente de la France
ouais.
à Bruxelles.
Ça
s'est pas fait. Ça aurait pu me plaire. Et finalement, à ce moment-là, je me dis, je n'ai pas d'expérience d'un pays anglo-saxon. Et donc,
okay.
je pars 7 mois. Je fais une sorte de pause, alors ce qu'on appelle maintenant une césure,
voilà,
enfin,
ouais.
comme on veut. Je pars 7 mois à Dublin. Voilà.
C'est sympa, Dublin.
Et voilà, et je pars pour vraiment pas être dans mon domaine. Ouais. Hein. Je pars, je deviens serveur, sandwich maker. Je prends un appart, je me frotte à la langue, à la vie dublinoise. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis au bout de 7 mois, je me dis, bon, maintenant, il va quand même falloir bosser.
Ouais. Et tes parents, ils sont... Ça leur allait quand tu leur dis, j'arrête, je vais juste à Dublin pour voir.
Mes parents...
Peut-être que les parents, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce que tu vas faire?
Mes parents m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais faire. Et s'ils sentaient qu'il y avait ce besoin, ils me disaient, vas-y. Donc, dans tout, ils m'ont encouragé. Et puis, j'y allais, j'allais dire, en travaillant, donc avec mes propres moyens.
Je savais que t'étais pas en mode...
Non, j'étais pas en mode flambeur, j'étais en mode je vais vivre une expérience, je vais gagner ma vie, et puis au bout de 7 mois, je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais revenir dans le cadre d'une trajectoire que finalement j'étais en train de dessiner quand j'étais en France, et donc je retourne au SGE parce que j'ai jamais négligé l'importance des réseaux et des écosystèmes. Et donc j'avais gardé un contact, j'oublie jamais les noms d'ailleurs, avec Claude Bourdalès, qui s'occupait des RH au SGAE, et puis il me dit, tiens Jean, j'ai vu passer une annonce au ministère des Armées, à la direction des affaires juridiques, au bureau du droit européen, ils cherchent quelqu'un. Là, je postule, et je suis pris. Et donc je reviens en France, et je travaille au bureau du droit européen, à la direction des affaires juridiques du ministère des Armées, donc au sein du SGA. Et il se trouve que ça tombe au moment de la présidence française de l'Union européenne. On est en plein dedans. et donc, la dernière présidence française de l'Union européenne, du coup, c'était en 2008.
Ouais.
Et je suis... Et parmi les priorités, parce qu'il y avait une série de priorités, il y avait une priorité sur la défense. Ouais.
L'Europe
et donc,
de la défense.
Voilà. À l'époque, on parlait notamment des directives marché-défense, etc. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est mon premier... Vrai job. Et c'est au ministère des Armées. Et c'est le début d'une relation qui s'établit finalement avec cet univers-là que je ne connaissais pas parce que je suis d'une génération qui n'a pas été service militaire, une des premières. Et je découvre un univers qui me plaît bien.
Tu restes moins de 2 ans? Parce que ça te déplaît, enfin, te déplaît non, mais est-ce que c'est juste une expérience qui, voilà, t'as fait le tour et tu...
Parce que j'ai une opportunité qui se présente à moi.
D'accord, tout simplement.
Voilà, et que j'aurais pu rester plus longtemps.
Ouais.
Et à l'époque, je commence à m'intéresser un peu à la chose politique. Enfin, elle m'a toujours intéressée, mais jamais sous un angle partisan.
T'avais des élus dans ta famille ou...
Pas du tout. Pas du tout. Je viens pas d'une famille où il y a
des élus ou des militants
ou des personnes très engagées. J'avais j'avais un grand-père plutôt socialiste et plutôt militant, lui. Et puis un autre grand-père qui lui était plutôt gaulliste, le commerçant gaulliste qui va à l'église. Voilà. Bon, bref, j'avais deux profils un peu différents, mais c'était, j'ai envie de dire, le reflet. De la société française avec des gens plutôt de gauche, des gens plutôt de droite, mais personne qui s'était présenté à une élection, par exemple.
D'accord. Donc tu commences à t'y intéresser pendant que tu es au MINARM ou avant
Je commence à m'intéresser pendant que je suis... Alors, je m'y intéresse avant d'être au MINARM. Je m'y intéresse...
À la fac, tu sais, parfois, il y a des...
Je commençais à m'y intéresser, mais je ne voulais pas... Alors, j'ai été président d'association, d'une association qui s'appelait ELSA. C'était l'association des étudiants... l'association européenne des étudiants en droit.
D'accord.
Donc, je me suis impliqué dans des choses, mais ce n'était pas politique.
D'accord.
Mais en revanche, ça touchait à de la chose politique.
Bah,
quand on parle de droit constitutionnel, quand on parle de droit de manière générale,
t'es
y compris
très, très
en
loin.
Parlant de droit de la famille, on parle de droit de la famille, on parle de droit du travail, on parle de tous ces sujets-là, finalement ça renvoie à une traduction d'idées politiques dans le droit. Et donc ça m'intéressait, mais...
D'accord, mais comment tu te forges cette espèce de conscience politique? Tu te renseignes, tu lis la presse, enfin comment ça se crée cette connaissance de la chose politique, de ce monde, etc. Parce qu'on va le voir dans ton prochain job après le MINARM, parce que c'est très très concret ton job d'après, on va dire. Donc comment tu construis cette connaissance politique?
C'est marrant. Alors, quand j'étais tout jeune, c'est vrai que tout à l'heure, on est tous assez complexes, hein, et on s'intéresse tous à plein de choses assez tôt. J'ai parlé du théâtre, mais c'est vrai que dans le même temps, j'étais très sensibilisé, notamment par ma mère, à tout ce qui était environnemental.
Okay.
Et j'étais un gamin, mais la chose politique m'intéressait sous l'angle des enjeux environnementaux. Pourtant, on était dans les années 80-90, bah hein,
ouais,
on
ne ouais.
sait pas aujourd'hui. Pas... mais j'avais une maman très, j'ai une maman très sensible à ces sujets-là, et donc qui nous tournait un peu vers ça, l'attention portée à l'environnement, etc. Donc là, je commence à me forger quand même un petit ouais. peu. J'avais quelques petites revendications d'enfant hein, avant d'avoir des revendications d'ado. Et puis après, il y a mes études de droit, j'allais dire, qui repositionne la balance, sans mauvais... voilà. Sans mauvais jeu. Non, mais ça repositionne la balance où je peux même poser des questions sur ce qu'est notre État, sur la manière dont il s'est construit, sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'est la République, sur la chance qu'on a aussi de vivre dans un État comme le nôtre, dans une société comme la nôtre. Là, typiquement, j'ai vécu en Irlande, j'ai vécu en Espagne. Il y a des sujets sur lesquels, à l'époque, depuis les choses ont évolué, mais sur lesquels, bah, finalement, on se dit, en France, on est dans un pays particulièrement progressiste ouais. sur un certain nombre de questions. On se départit d'un certain nombre de considérations. Entre-temps, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Mais j'observe tout ça, je regarde tout ça. Petit à petit, je me positionne. Ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi, on ne peut pas ne pas les citer, il y a ceux qui nous influencent d'une manière ou d'une autre, qui nous permettent de nous... Enfin, qui nous offrent tellement de choses pour nous construire, sont nos professeurs. Et là, j'ai en tête le nom de mon professeur de français qui a contribué, je pense, d'une certaine manière. C'est bête, avec lui, j'ai lu Antigone. Et puis, après, il y a les profs de philo. Et puis, ensuite, il y a les profs d'histoire du droit. Je pense à Claude Bouvresse, d'ailleurs, qui nous a quittés au cours des quelques dernières semaines, qui était un professeur qui a marqué tous ceux qui sont passés devant lui. Et donc il y a tous ces profs aussi qui ont contribué. Et puis, voilà, je me suis forgé progressivement des convictions sur la base de valeurs, à mon avis, qui étaient présentes depuis très, très, très longtemps.
Ok. Et donc, après le Minarm, tu rentres donc à l'UMP.
Oui, alors, c'était pas prévu.
C'était pas prévu. Ça se passe comment?
Bah, en fait, progressivement, c'est là que je me sens trouver ma place. C'est plutôt l'UMP. Et puis, il y a une campagne qui arrive, c'est la campagne des élections européennes de 2009.
Ok, ouais.
Dernière grande campagne gagnée par ce feu parti, l'UMP.
Et, oui, c'est les Républicains maintenant.
Voilà. Et donc, l'UMP, grand rassemblement hein, de la droite et du centre. Faut se souvenir hein, qu'à l'époque, il y a des personnes de gauche qui rejoignent des gouvernements de droite, etc. Donc, il y a un grand rassemblement. Et puis, donc moi, ça me va bien. Je m'approche de ce parti en disant, moi, je serais prêt à être bénévole dans la campagne. Okay. Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit, c'est Olivier Béda, qui était en charge des affaires européennes de l'UMP, qui me dit, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu viennes travailler dans la campagne. Bon, et là, je me pose des questions. Je me dis, attendez, je vais démissionner du ministère des Armées, c'est mon premier job, ça se passe bien, c'est quand même un job plutôt sérieux, voilà. Et je me pose des questions, et puis je me dis, bon, je suis quand même tout jeune, j'ai pas d'engagement particulier. on me propose quelque chose d'assez dingue. Être en charge des argumentaires d'une campagne européenne au siège du parti qui est au pouvoir. Et ben, je craque et je dis oui.
Ah bah,
et donc, je démissionne et je signe un contrat de 3 mois dans un parti politique alors que j'avais un contrat stable dans un ministère.
Ah
voilà.
Oui.
Et donc, j'y vais, je saute. Et je n'ai aucun regret parce que derrière, bon, la campagne a été gagnée.
Oui.
Voilà, pour plein de raisons et le brio de beaucoup de personnalités politiques de l'époque. Et à l'issue de cette campagne, alors il se trouve que le secrétaire général de l'UMP était Xavier Bertrand. Et à l'issue de cette campagne, Xavier Bertrand me fait venir dans son bureau et me dit « Jean, j'ai cru comprendre que tu avais envie de t'impliquer politiquement. D'où tu es ?» Je lui dis « En Normandie, machin. » Bon, il me dit « Très bien. » Et puis, il me dit « Est-ce que ça te dirait d'être mon conseiller Europe et Défense ?» Et là, je me dis, mais alors, c'est une superbe opportunité. Et évidemment, Je dis oui et donc je suis embauché par l'UMP auprès du secrétaire général pour l'accompagner sur tout ce qui est question européenne et défense, donc relations avec nos députés européens, mais aussi relations avec l'écosystème du monde de la défense et des sujets qui renvoient à la défense au sein de l'UMP.
Donc là, à ce moment-là, t'es employé d'un parti politique. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est déjà une implication politique ou c'est juste un job dans la politique? Et la deuxième question qui vient après, est-ce que tu penses un jour, tiens, je pourrais me présenter à des élections? Ou c'est juste, je suis dans un parti que, voilà, qui, où il y a mes convictions, où je retrouve une communauté d'esprit, on va dire. Et de là à se dire, un jour, je pourrais avoir un rôle politique, est-ce que c'est un truc déjà qui t'effleure l'esprit?
Alors, qui m'effleure l'esprit, certainement. Je ne me souviens pas précisément ce que je me dis à l'époque. Mais ce dont je suis certain, c'est que c'est un job particulier. Un job particulier parce qu'encore une fois, je me faisais la remarque, je prenais un peu de recul et je me disais combien de personnes vivent ça aujourd'hui dans le pays? Pas grand monde, parce que la réalité, c'est qu'un parti au pouvoir, il n'y en a qu'un. Et puis, au sein de ce siège, quoi, il y a 100 personnes qui travaillent sur des fonctions différentes. Et donc, c'est un job très particulier. Ouais. C'est exactement un microcosme. Et puis, à l'époque, j'accompagne Xavier Bertrand et d'autres personnes. Hein, il y a eu Rachida Dati, Hervé Mariton et d'autres que j'ai accompagnés. Jacques Toubon, quelqu'un de passionnant. Jacques Toubon, d'incroyablement cultivé. C'était au moment de la création notamment du musée de l'immigration. Jacques Toubon était quelqu'un d'une grande gentillesse aussi. Et puis, donc, je découvre différentes personnes. Mon voisin de bureau, d'ailleurs, à l'époque, c'est quand même rigolo, c'est Gérald Darmanin, qui est conseiller en charge des affaires juridiques auprès du parti.
En fait, c'est ton équivalent, mais toi, t'es
européen. Il y a plusieurs conseillers et personnes en charge d'un certain nombre de sujets. Lui est dans un bureau pas très loin et en charge de ça. Donc, il y a comme ça des gens, tout comme... je pourrais vous citer plein de personnes qui, entre-temps, ont pris des responsabilités politiques assez importantes. Et donc, oui, c'est un job. Oui, c'est... à l'époque, je rencontre des gens avec Xavier Bertrand, comme l'ancien Premier ministre anglais. Exactement.
Tony ? Non, c'est pas Tony. Non, c'est l'autre. Cameron.
Voilà, David Cameron, mais on rencontre aussi Viktor Orban. T'es surprise. À l'époque, il est pas au pouvoir, Viktor Orban.
Et puis là, maintenant.
Et il est pas. Mais c'est marrant parce que la vie politique est faite d'évolution, hein, des uns des autres. On en est conscient. Viktor Orban, à la base, est un opposant dans son pays, un opposant d'une droite plutôt classique, mais pas du tout l'image qu'on en a là maintenant, aujourd'hui.
À l'heure actuelle.
on rencontre aussi tous les responsables politiques espagnols, et notamment à l'époque, un ancien premier ministre qui m'a aussi marqué par son charisme, qui était Aznar. Donc on rencontre Aznar, on rencontre Cameron, on rencontre Viktor Orban, on rencontre des personnes comme ça, et forcément c'est marquant. C'est
marquant. Pourquoi tu quittes? Qu'est-ce qui se passe?
Alors entre temps, Xavier Bertrand n'est plus secrétaire général de l'UMP parce que la vie politique est faite encore une fois de plein de changements. Et donc à l'époque, ça a beaucoup marqué l'actualité. On oublie progressivement, mais
ça veut dire que quand le chef part, ses conseillers.
Là, pour le coup, Jean-François Copé arrive, prend et devient secrétaire général de l'UMP. C'est là qu'effectivement c'est un job parce que moi je reste, même si j'ai une proximité avec Xavier Bertrand et beaucoup de sympathie pour lui, mais moi c'est mon job et donc je reste, tout en imaginant, pour répondre à ta question, par ailleurs m'investir politiquement. C'est-à-dire que moi, être conseiller d'un responsable politique, c'est extrêmement enrichissant, c'est passionnant, j'ai adoré, je n'en reviendrai là-dessus absolument pas, enfin à aucun moment. Mais à un moment donné, on a aussi envie d'être élu, de tenir un peu plus le gouvernail, alors à différentes échelles. C'est ce qui m'a intéressé et c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter à un moment donné.
Ah ouais, donc c'est ça qui te fait quitter en fait le...
Non, c'est pas ce changement-là. C'est le fait de découvrir cet univers-là, ouais, qui renforce l'envie d'être à un moment donné candidat. Et puis on dit souvent, et on l'entend dans la bouche d'Edouard Philippe, dans la bouche de plein d'autres, que le mandat de maire, c'est le mandat par excellence. Ouais, que ce soit Christian Estrosi, hein, qui est revenu à un mandat de maire, que beaucoup d'hommes politiques, d'ailleurs, qui ont eu d'autres mandats, parfois entre guillemets plus importants, ou en tout cas des mandats nationaux, sont revenus à des mandats de maire. Ouais. Pourquoi ? Certainement que c'est parce que c'est pas si faux que ça, quand on dit que c'est un des plus beaux mandats, parce qu'il est très complet, parce qu'il renvoie vraiment à la notion de territoire de la meilleure manière qui soit, et puis qu'on touche à tellement de sujets, depuis la toute petite enfance, jusqu'aux personnes les plus âgées de la communauté, en passant par tout le reste.
Non, on verra, parce que j'ai fait un petit topo de... J'ai juste regardé ton Facebook... 30 secondes dans le train en arrivant, enfin 30 secondes, 30 minutes dans le train en arrivant, le nombre de choses que tu fais. D'ailleurs, c'est quand t'es arrivé, je t'ai dit, mais t'as pas de vie. C'est impressionnant, et sur dans tous les domaines pour la ville de Duclair. Moi, il y a une question que je me pose quand même quand on décide de... Donc, j'ai travaillé aussi en politique, moi, au Parlement fédéral du Canada. Mais moi, ce que je me dis, mais pourquoi ? T'es tranquille, t'as un CDI, t'es payé, y a personne qui te... T'es derrière, il n'y a personne qui te juge, il n'y a personne... Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens qui peuvent t'envoyer des crasses dans la tête tellement facilement, pourquoi aller s'infliger ça? Moi, c'est mon premier, tu vois. Je me dis, mais pourquoi tu te fais du mal?
Ça ne s'explique pas parce que c'est l'envie de faire des choses... C'est vraiment c'est une question d'envie. Parfois, on pourrait se dire pourquoi aller ouvrir un corps et puis avec des objets coupants toucher à des organes. Enfin, j'ai peut-être été... Pourquoi?
Mais bon, c'est ça, c'est l'avancée de la médecine, ça peut se comprendre.
Et pourtant, il y a des gens qui ont envie de faire ça. Et heureusement d'ailleurs qu'ils ont envie de faire ça. Pourquoi avoir envie de passer sa journée dans la bouche des gens, à faire des caries et bon. Mais ça, on peut se poser la question sur plein de métiers. En fait, ce qui est à chaque fois, je pense qu'il y a une envie, il y a quelque chose qui nous a amené à ça. Et puis voilà, ça c'est. Enfin, on pourrait certainement l'expliquer, faire une psychanalyse et tout ce qu'on veut bien. Mais je pense que encore une fois, il y a une envie. Et moi, c'est l'envie qui m'a mené à ça. Mais j'ai toujours un job, hein, parce que quand j'ai quitté l'UMP en tant que salarié...
T'aurais pu rester à l'UMP en étant maire, ou c'était...
Alors, je ne le souhaitais pas, très clairement. Okay. Parce que je pense qu'à un moment donné, être conseiller politique, ça correspond à un temps dans la vie. En tout cas, à titre personnel, je le voyais comme quelque chose qui correspondait vraiment à un temps extrêmement enrichissant, un temps qui t'apporte plein de choses, mais un temps qui doit prendre fin.
Puis c'est très demandant, ces genres de boulot en politique. Oui, il faut avoir... T'es pas corvéable à merci dans le sens péjoratif du terme, mais c'est un peu, t'es tout le temps sur le... à bosser, dès qu'il y a un besoin, quelle que soit l'heure, t'es là, t'es mobilisable. Donc c'est vrai que c'est pas des choses que tu peux faire, enfin il y a des gens qui le font, mais toute une vie,
Toute une vie, moi je me voyais pas le faire, et puis j'avais envie, très clairement, de rejoindre le monde de l'entreprise. Alors... J'ai franchi un pas non négligeable, même si je ne suis pas aujourd'hui dirigeant d'entreprise, ni dans une entreprise. Enfin, dans une entreprise. Non, je ne suis pas dans une entreprise en tant que telle.
C'est ça, d'où l'épisode hybride. Es-tu un chef d'entreprise en étant maire d'une ville? Parce que, mine de rien, vu tout ce que tu gères en termes de budget, en termes d'employés, de ta mairie, de la police, puis toutes les activités que tu as, c'est pour ça que je parlais d'un épisode hybride, parce que moi, je vois ça un petit peu aussi comme une entreprise que tu dois gérer dans un CDD renouvelable, on va dire. Mais c'est... Enfin, moi, je l'assimile à ça.
Bah oui, alors peut-être te parler un peu du comité Richelieu. Parce que, non, mais parce que ça fait le lien. Ça fait le lien. J'avais envie de découvrir le monde de l'entreprise. Et il se trouve que, pareil, j'ai rencontré quelqu'un, Philippe Bouquet, qui, lui, est dirigeant d'une ETI qui se situe en Normandie. Mais c'était pas parce que c'était en Normandie, au passage, parce que je l'ai connu à Paris. Mais je rencontre Philippe Bouquet, qui me parle d'une organisation qui s'appelle le Comité Richelieu, qui est une association, si on parle de son statut, qui rassemble aujourd'hui 200 start-up, PME, ETI, innovante, une association qui a pour but de représenter ces entreprises, de porter leur voix auprès des pouvoirs publics et de mettre en œuvre des actions qui permettent aussi de favoriser de manière plus directe leur business et leur développement.
Et donc, à la base, c'est une association qui a été créée autour du secteur de l'économie de la défense.
Exactement. Voilà. C'est une association qui a été créée il y a maintenant 33 ans. 1989. et donc, à l'origine, c'est 5 dirigeants de PME de défense. Du coup, c'est là le fil rouge hein, aussi. Ministère des Armées. Mmh. Après ça... auprès du secrétaire général de l'UMP en charge de sujets de défense. Et puis ensuite, je rejoins un groupement qui a une facette défense toujours très forte, hein, parce qu'effectivement, je dis que ça rassemble des entreprises innovantes, mais la racine vient du monde de la défense. Et aujourd'hui, c'est encore une organisation qui est très positionnée sur les questions de défense et en lien avec le monde de la défense depuis sa dimension institutionnelle jusqu'à sa dimension entreprise.
Et donc, tu deviens le délégué général.
Exactement.
Donc, directeur opérationnel, on va dire.
Directeur opérationnel du comité Richelieu, en lien au quotidien avec des chefs d'entreprise pour justement mener toutes ces actions et partout dans les territoires. Le comité Richelieu, on était encore récemment à Lyon avec Minalogic et Tuba et Eden. On est à Bordeaux avec la French Tech Bordeaux. On est aussi en Normandie avec Normandie Aérospace. En région parisienne, il y a Aztec. Du côté de Lille, il y a Euratechnologie. Enfin, on a beaucoup de partenariats. On travaille avec des grands groupes aussi. On a une activité sur l'ensemble du territoire national avec derrière, comme je le disais, des messages qui sont portés et qui passent par des publications. Effectivement, on a un observatoire de l'innovation avec Sogedev et d'autres organisations. Et puis, on a aussi un livre blanc qui sort tous les 5 ans et qui nous permet de porter des messages forts auprès des responsables politiques. Je donnerai juste un exemple. On est très clairement au comité Richelieu à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le crédit d'impôt innovation, qui est un complément du crédit impôt recherche, sujet sur lequel on est très, très mobilisé parce qu'il est au passage réservé aux PME et il s'intéresse à un moment différent de celui que gère le crédit d'impôt recherche, un moment un peu plus aval, qui est important de soutenir.
Donc tous les jours, tu es délégué général du comité Richelieu, donc tu rentres au comité Richelieu en 2013.
C'est ça.
Et tu es élu maire en 2014. Donc, c'est-à-dire que pendant que tu es en poste au comité Richelieu...
J'ai encore des week-ends.
Question bête, comment on se présente à une élection municipale? Comment on fait?
Comment ça se passe?
Si moi, je veux devenir maire de Saint-Étienne.
Alors, non, mais c'est vrai que dans un premier temps, on se dit... parce que... J'étais pas membre du conseil municipal.
Ok. J'aurais pu t'avais être... pas du tout.
J'avais aucun mandat.
D'accord.
Alors j'avais été candidat aux élections départementales qu'on appelait, pour être conseiller général à l'époque, parce qu'on parlait pas de conseil départemental mais de conseil général. J'avais été candidat à cette élection dans le canton de Duclair en 2011.
Candidat,
c'était mon premier mandat. Je m'étais lancé là-dedans. Je m'étais dit, allez, on y va. Je suis d'ici. Moi, je suis né à Rouen, mais en réalité, j'ai passé mon enfance et ma vie au Trait, commune voisine de Duclair. Et je me dis, allez, je me présente avec une étiquette politique, qui était celle de l'UMP en 2011, hein, un an avant 2012. C'est pas le moment le plus facile. Et en plus, sur un territoire qui, très clairement, n'est pas marqué politiquement de ce côté-là.
D'accord.
Mais j'assume, j'y vais.
Je
fais campagne, je pose des affiches. J'ai une personne formidable, Dominique Lasnet, qui avec moi va tracter, coller, etc. Bref, on fait campagne et une belle campagne et on perd. Voilà. Mais et c'est là que ça renvoie aussi à la notion de dirigeant d'entreprise. On prend des risques.
Ouais.
Et puis parfois on perd. Et puis parfois on gagne.
Tu le vis comment?
Moi, je le vis bien.
Ouais.
En tout cas, je le vis pas mal. La chose la plus dure, c'est pour les gens qui sont autour de nous.
Qui y croient, qui se sont...
Qui y croient. Alors, il y a ceux qui ne sont pas de notre famille et qui y croient et qui sont là et qui militent et qui sont à fond. Et puis, il y a aussi les membres de notre famille qui, eux, voient un proche qui connaît...
revers de fortune.
Ouais, un revers, un échec. Moi, ça ne me dérange pas. On perd. Voilà, on a joué, on a perdu. Bah, c'est comme ça et c'est pas grave. Et puis, je me souviens que juste après ça, je rencontre un du Clairois qui me dit, Jean-Sébastien Havard, qui me dit bah alors, la prochaine fois, c'est la mairie ? Et qui me pose la question comme ça. Mais il me pose la question, tout simplement. Rien de plus. Il me dit pas, faut y aller. Il me pose la question. Il me dit, la prochaine fois, c'est la mairie. J'avais pas forcément. Enfin, j'étais pas déterminé à ce moment-là. Et je me dis, si je veux continuer et être utile et à un moment donné faire des choses pour le territoire, il se trouve que c'est le chef-lieu de canton à l'époque, hein, de ce canton sur lequel je m'étais présenté. C'est une belle ville. Je me sens à l'aise avec cette ville, à travers qui je suis et ce à quoi elle renvoie. Et je me dis, pourquoi pas ? Et là, okay. Je me dis, c'est dans 3 ans. Et petit à petit, j'établis des relations avec les uns, avec les autres.
Ah oui, tu prépares le terrain.
Et à un moment donné, avant l'échéance hein, pour déposer les listes, je pars avec mon bâton de pèlerin, il n'y a pas d'autre expression qui correspond, et je pars et je vais voir des gens, parfois que je connais à peine, en leur disant... Est-ce que vous êtes prêts à me suivre ? Parce qu'il faut quand même que je constitue une liste avec 27 personnes qui ont envie.
C'est 27 personnes, d'accord.
27 personnes. Donc 27 personnes qui se disent, 26 à mes côtés, qui se disent, j'ai envie, j'y crois, et je suis prêt à m'afficher avec cette personne qui est Jean de la Lande.
T'as 32 ans à la base, à l'époque ?
J'ai 32 ans. À peine, hein, j'ai pas encore 32 ans au moment où on fait tout ça, j'ai 31 ans. Et donc, je trouve ces 26 personnes sans qui ça n'aurait pas été possible. Parce que parfois, des gens se disent, je suis en fin de liste, moi je n'ai pas été élu, c'est pas. Mais si t'étais pas là, on ferait pas la liste, on se présenterait pas et donc on pourrait pas gagner. Et donc, chaque personne est essentielle sur la liste pour mettre en œuvre ce sur quoi on s'engage. Et donc là, je constitue la liste. Beaucoup de gens n'y croient pas, je ne parle pas de ceux qui sont sur la liste, eux ils y croient, mais beaucoup nous disent « non mais jamais, vous voyez le contexte, il y a 2 autres candidats qui sont là depuis des années, machin truc ». D'accord. Et au premier tour on fait plus de 40% avec 3 listes, et au deuxième on fait 58%
et sans étiquette.
Et sans étiquette, parce que autant les gens connaissent mes engagements, comme j'allais dire presque tout un chacun, j'ai une sensibilité. Moi, elle s'est traduite par un engagement, c'est vrai, marqué à un moment donné. Mais quand je suis dans ma ville, je m'engage à être maire. Et être maire, c'est pas tous les jours sortir dans la rue avec une étiquette. Être maire, c'est gérer un quotidien avec, j'allais dire, avec sa tête, avec ses tripes, au regard de convictions que l'on a en termes d'intérêt général et de bonnes choses à faire pour les gens. Et donc, quand je me présente, je refuse l'idée d'avoir une étiquette. D'autant plus que sur ma liste, il y a des gens qui ont différentes sensibilités. Je leur ai pas dit, est-ce que t'es de droite, est-ce que t'es de gauche? Oui. Et je suis certain que certains avaient une sensibilité de droite et d'autres une sensibilité de gauche. Mais c'était pas le sujet. À partir du moment
où ils me suivaient... C'est une communauté pour la ville, quoi.
Et puis s'ils me suivaient, ça voulait dire qu'ils étaient en phase avec ce que moi je proposais et ce que je portais et ce que je pouvais représenter. Et à ce moment-là, et toujours aujourd'hui, et lorsque je me suis présenté pour la deuxième fois en 2020, et si un jour je devais me représenter à la mairie, je ne le ferai jamais avec une étiquette.
D'accord. Et député ? Pourquoi pas député ?
J'ai été candidat en 2017.
D'accord.
Aux élections législatives. Je n'ai pas été élu, hein, parce que sinon je serais député.
Ah
bah
non, mais ça
va
parce que ça serait fini.
C'est un mandat différent parce que entre temps, je suis maire, je suis de ce fait conseiller métropolitain à la métropole Rouen-Normandie. Je suis membre du bureau de la métropole et puis depuis un
maintenant,
an
ouais.
Conseiller régional de Normandie. Ce qui est un ensemble intéressant. Au service d'ailleurs des causes et des territoires, et puis intellectuellement, parce que finalement, ça permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue. La ville, ça correspond à un certain nombre de problématiques, d'enjeux et de compétences. La métropole, ça renvoie à d'autres choses, et puis la région encore à d'autres choses. Et puis par ailleurs, sans en être un élu, je travaille beaucoup avec le département de Seine-Maritime, très bien dirigé, par le président Bertrand Bélanger, mais on travaille très bien ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des strates différentes qui permettent
d'avoir une
bonne vision de cet environnement. Et je pense que c'est la meilleure manière derrière. En tout cas, c'est une bonne manière. C'est une chance que j'ai de pouvoir avoir cette implication pour finalement servir là où je sers de la meilleure manière qui soit.
Et concrètement, comment t'organises ton temps? Parce que conseiller, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs peut-être qui ne savent pas ce que c'est un conseiller de métropole ou un conseiller régional. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais? Alors, bon, pour la mairie, ils voient à peu près je fais.
Et on reviendra plus en détail sur comment tu t'organises, mais plus la métropole et la région.
Alors, par rapport, tout d'abord pour dire, par rapport à un job, moi aujourd'hui, forcément, je ne suis plus à temps complet. Je suis au 3/5e. Ce qui, dans le fond, 3/4/5e, c'est un mélange des deux, donc 3/3/5. non, mais en même temps, là, on parle du temps que l'on dédie. Mais la réalité, c'est que ce que je faisais dans le cadre de mon boulot, je le fais de la même manière qu'avant d'être élu. Parce que moi, j'ai toujours considéré que alors, le temps dédié, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est l'énergie qu'on y met et l'intelligence qu'on y met aussi. Si on y met beaucoup de temps sans énergie et sans intelligence, bon, on peut y mettre du temps, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Voilà, bon, mais ça mènera pas loin. Et donc, là, l'idée, c'est de servir mon job de la meilleure manière qui soit au regard des missions et qui me sont confiées par mon bureau, par mon conseil d'administration, par mon président. Et puis, par ailleurs, déployer l'énergie suffisante pour, en tant que maire, assurer... Et je ne suis pas tout seul, je suis entouré d'adjoints, je suis entouré de conseillers municipaux, je suis entouré d'agents qui sont au passage... J'ai la chance d'avoir de très bons agents autour de moi à la ville de Duclair. Donc, je travaille avec un collectif d'élus et de près d'une cinquantaine d'agents pour mener à bien les missions de la ville... Et on avance bien. Et puis, par ailleurs, je participe à des réunions de la métropole, et notamment au conseil métropolitain, mais pas qu'au conseil métropolitain, parce qu'il y a d'autres choses autour. Ça prend aussi du temps, c'est vrai, et ça renvoie à des projets qui sont aussi très intéressants au service de la structuration du territoire, notamment en termes de déplacement, de cadre de vie, mais aussi en termes de développement économique, qui sont des compétences que porte la métropole. Et c'est un très bel échelon aussi, la métropole. Dans un premier temps, quand ça a été créé, ça paraissait, y compris moi, je l'ai vécu comme ça, un peu loin des citoyens. Je pense qu'il faut accompagner le mouvement et cette évolution qui nous permet de gérer avec plus de puissance nos territoires. Et en réalité, je trouve que la métropole est utile au territoire, dès lors qu'elle va dans le bon sens, évidemment.
Oui, et la région, du coup?
Alors, la région, ça renvoie donc cette fois-ci à des compétences
Normandie.
Régionales,
ouais.
Moi je suis dans un groupe qui s'appelle Normandie Terre d'Avenir, et donc...
Ça fait 9 mois donc que tu es
conseiller
régional.
On participe évidemment aux sessions plénières du conseil régional, sessions au cours desquelles on prend des décisions de manière très claire pour la région, pour les Normands. Et puis, à côté de ça, on prépare ces réunions dans des commissions, fonctionnement assez classique. Et moi, je suis membre de la commission attractivité, développement économique. Je participe à ces commissions où on traite en amont les sujets qui seront présentés ensuite, évidemment, en session plénière, sur ces sujets-là. Et puis, je suis aussi représentant de la région dans des organismes. Et ça, c'est une partie du job régional qui est intéressant. Et donc, je vais par exemple au parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande, qui est un parc naturel régional, comme il y en a partout sur le territoire national. Et donc, je suis membre du bureau de ce parc en tant que conseiller régional. Et là, on traite de problématiques liées à l'aménagement aussi du territoire, à l'environnement, à tout ce qui est un peu, j'allais dire, tendance sur le caractère durable des choses en termes de développement du territoire. Et donc, c'est une très belle structure aussi. Et puis, je suis aussi dans des conseils d'administration de lycée. Voilà, donc c'est très complet, et ça occupe bien.
Ouais, tu parlais du conseil d'administration du comité Richelieu. Quand tu leur as dit que tu allais te présenter en tant que maire, comment ça a été reçu?
Alors tout d'abord, c'est un droit de se présenter
oui,
à une élection.
Oui,
tout le monde
ils
peut se présenter
se
à une élection.
La personne qui dirige opérationnellement le comité va peut-être être un petit peu pris, parce que Duclair, c'est quand même une ville de 4200
habitants.
200 habitants. Et puis avec tout ce que tu viens de nous décrire comme charge de travail,
alors,
c'est un peu...
Les gens qui sont impliqués au comité Richelieu, et notamment nos administrateurs, sont des chefs d'entreprise, mais qui sont, en tant qu'administrateurs, des élus.
Oui.
Des élus d'une association. donc, ils savent ce que c'est, même si c'est un peu différent, évidemment, mais ils savent ce que c'est que d'être élu. Ils savent ce que c'est que l'engagement. Quand on s'engage, peut-on reprocher à quelqu'un de s'engager? Évidemment, il faut que ça reste compatible. Alors, un, c'était effectivement un droit, mais deux, évidemment que leur avis m'importait, évidemment que j'ai échangé avec eux, et ils l'ont accepté à partir du moment où je continuais à remplir la mission qui m'avait été confiée. Et c'est ça, j'allais dire, le deal dans l'histoire. Et donc ça s'est bien passé. Et puis, par ailleurs, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. Quels que soient les environnements dans lesquels je suis, il y a un élément qui revient toujours. Et tous ceux qui nous écoutent, parce que je sais que ceux qui ont l'habitude de t'écouter sont sensibles à ça. Partout où je suis engagé, ça renvoie à des notions de réseau.
L'importance du
réseau. Et donc chaque engagement permet de renforcer cette dimension réseau. Et donc, sous cet angle-là, je pense que c'est aussi assez intéressant. Et pas seulement sous l'angle réseau, sous l'angle aussi compréhension d'enjeux. Mmh. Au comité Richelieu, on est extrêmement sensible à la question de l'achat public innovant.
Ouais.
Alors, je pourrais regarder ça du côté juste comité Richelieu, en lien avec des chefs d'entreprise. Mmh. Il se trouve qu'en plus de ça, je peux leur offrir le regard de quelqu'un qui est un acheteur public en tant que collectivité. Ça n'est, je pense, que quelque chose d'enrichissant. En fait, moi, je pense que une fois, on m'a dit « tu es un slasher ». Je ne savais pas ce qu'était un slasher. Tu vois, tu mets « délégué général du comité Richelieu »,« slash maire »,« slash voilà,
slash
etc. etc. etc.
Slash
bon, slash papa, slash... Non, on peut aller loin.
Ah oui, parce que depuis...
Non, mais tu peux mettre plein de choses. Et on m'avait dit bah, « toi, t'es un slasher ». Mais comme beaucoup de personnes. Et oui, je suis un slasher, si on veut. Ça, moi, je pense que on n'est pas en train de faire des soustractions, on est en train de faire des additions. Et au bout du compte, il faut que ça reste
compatible,
tenable,
tout,
compatible,
ensemble,
tenable. Il faut, je pense qu'à un moment donné, je serai le maire d'une très grande ville ou président d'une très grande métropole, je ne pourrai pas continuer à faire ce que je fais. Aujourd'hui, moi, dans ma vie de slasher, j'ai trouvé un équilibre. Je disais ça quand j'étais, entre guillemets, que maire et délégué général du comité Richelieu. Puis, je disais, j'ai trouvé un équilibre. Puis, à un moment donné, il y a eu la région.
Ouais.
Bon, voilà. Et puis, après, avant, il y a eu le bureau de la métropole. Enfin, bref, on peut... L'équilibre est fait de
micro-ajustements sur le chemin.
D'ajustements, voilà, c'est ça. Parce que de temps en temps, il y a un élément, il y a une pièce qu'on vient poser dans la balance et qui peut créer un déséquilibre et qui exige justement de repenser l'équilibre. Mais voilà, je pense que tout ça est assez et doit être subtil. Tant qu'on s'y retrouve, tant qu'on perd papier, faut foncer.
Et on en avait parlé quand on avait préparé cette interview en visio. Je t'avais posé la question, pourquoi pas juste maire, justement, juste maire, juste conseiller régional, juste conseiller de métropole?
Alors pour moi, il est tant que je peux, et aujourd'hui je peux, dans le cadre de cet équilibre subtil qu'on évoquait, je veux avoir un travail. Je veux pas dépendre des mandats. Je veux pas en dépendre pour mon équilibre global, mais je veux pas aussi dépendre financièrement. Quand on est entre guillemets, qu'élu, par des temps, les gens ne dépendent que de leur mandat. Et vous n'êtes pas, de mon point de vue, sauf encore une fois si ça n'est pas compatible avec une activité à côté, mais lorsque c'est compatible, vous n'êtes pas le même élu lorsque vous avez une vie professionnelle à côté que lorsque vous n'avez pas de vie professionnelle. Parce que vous savez que si demain, vos mandats s'arrêtent, la vie ne s'arrête pas. Et donc, vous pouvez continuer à travailler. Quand vous n'êtes qu'élu, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, parfois, encourage au courage. Parce qu'on dépend financièrement. Et donc, moi, je tiens à ne pas dépendre financièrement
de juste ton mandat.
Ouais, exactement.
Ok. Et donc concrètement, au jour le jour, en tant que maire de Duclair, comment ça se passe?
Ça se passe.
Parce que, comme je disais, j'ai regardé le Facebook. Et puis surtout, tu fais des super vidéos de vœux pour 2022, pour 2021, etc. Enfin, cette page est très bien tenue. La page Jean de Lalandre pour la ville de Duclair. On a l'impression que tu n'arrêtes pas. Tu es tout le temps... puis quand on sait aussi que tu as un job à côté et que tu parcours la France aussi avec le comité Richelieu pour des réunions diverses et variées, comment ça se passe concrètement une semaine type dans la vie de Jean de Lalandre?
Alors une semaine type, ça commence le lundi. Et le lundi, j'ai un agenda bien complet qui est organisé par les services de la ville qui me permet de rencontrer beaucoup de monde. On est aussi... alors là, pour le coup, je parlais de slasher, je reviens là-dessus. Mon agenda de maire... c'est un agenda de grand slasher, de slasher dingue. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un sujet à l'autre, et ce qu'il faut, faut arrêter avec les anglicismes, mais on dirait qu'on switch en permanence. Ouais. On passe d'une personne qui vient pour une demande de logement à une discussion sur le programme Petite Ville de demain avec en présence d'élus de l'administration régionale, de la métropole et d'autres, on va parler de l'avenir du territoire, et puis ensuite on a une réunion pour la construction de la future crèche, et puis ensuite on va faire un point sur l'état d'avancement de la construction de la nouvelle gendarmerie, et puis ensuite on va faire un point et puis après on va parler de la prochaine exposition qui aura lieu sur les quais l'été d'après, etc., etc. Donc on traite de plein de sujets, mais il y a plein de gens qui traitent de plein de sujets, donc c'est pas extraordinaire. Ce qui rend la chose assez assez dynamique, c'est que c'est très rapproché.
Ouais.
C'est que on traite de vraiment plein de sujets dans la même journée, qui renvoient à des enjeux et des responsabilités différentes.
Il y a qu'à voir ta vidéo là pour les vœux de 2022, où tu parles de l'ouverture de classes qu'il y a eu sur la commune, de la nouvelle crèche pour 2022, des infrastructures sportives, du centre de vaccination, de la nouvelle gendarmerie qui va accueillir une 38 gendarmes. 38 gendarmes, des lieux culturels, de la volière, du fameux canard de Duclair.
Et ouais, je parle d'autant de choses.
Et là, te dis waouh. Et puis, là, en ce moment, tu es en train d'aller rencontrer tes nouveaux administrés sur la commune. Enfin, c'est dingue. Non, c'est pas dingue, mais c'est...
Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Alors, c'est vrai qu'on rentre progressivement dedans. À un moment donné, on oublie. Là, tu me le dis et je me dis, c'est vrai, il y a tout ça. Oui, c'est vrai.
Et c'est pas fini. Hein.
Y a tout ça. Et c'est pas fini. Là, c'est un extra.
Puis les mariages, on en parlait tout à l'heure, les mariages que tu célèbres le samedi. Puis les parrainages, tu disais, parce que c'est vrai, le parrainage républicain. Puis le conseil de la municipale aussi. Ouais. Les gens que tu dois... Et puis,
ça fait beaucoup. Donc, il y a ça.
Il n'y a que 4000 personnes.
Oui, c'est ça. Il y a 4200 habitants. Mais alors, c'est une ville qui a une particularité, c'est qu'elle joue un rôle de bourg pour un ensemble de population qui est entre 15 et 20 000 habitants.
D'accord.
Donc, on a beaucoup de services. On a, pour une ville de 4200 habitants, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on a 7 médecins. 7 médecins pour 4200 habitants, ça paraît énorme. Parce qu'en fait...
Puis, tu as un théâtre et un cinéma aussi. Ça,
alors, on a la chance d'avoir une très belle infrastructure culturelle avec le théâtre. Et une très belle programmation derrière. Oui, ça. Et puis, on s'est lancé, on est membre d'une société publique locale de cinéma itinérant. Voilà, je pourrais... Ouais, si je commence à parler de la mairie, je ne veux pas partir dans tous les sens parce qu'il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, mais il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Par exemple, ma première préoccupation... c'est de faire que Duclair, certes, reste à sa place, c'est une commune de 4200 habitants, mais prenne toute sa place. Une fois qu'on a dit ça, le champ des possibles, il est large.
C'est ça.
Il est très large. Il y a des moyens que nous n'aurons jamais à l'échelle de notre ville. Mais notre imagination, elle, pour le coup, elle est libre. Et donc, et les partenariats qu'on peut établir avec les uns, avec les autres, avec la réunion des musées métropolitains de Rouen, par exemple, avec l'école des beaux-arts de Rouen et du Havre, des beaux-arts et de design de Rouen et du Havre, avec l'école d'architecture de Normandie, avec d'autres collectivités, avec... c'est sans limite. On peut imaginer tellement de choses. Donc on s'interdit. Mon objectif, c'est qu'on ne s'interdise jamais d'imaginer de faire des choses qui emmènent notre ville. Et une fois qu'on a dit ça, eh ben, j'ai envie de dire, on vient de tourner le contact, enfin la clé dans un contact qui nous emmène.
C'est ça.
Voilà.
Est-ce que tu es un chef d'entreprise ? Je parle de ça dans ta relation à la gestion, parce que la gestion d'une mairie, parce qu'on là, on a parlé de tout ce qui se passait sur la ville de Duclerc, mais ton boulot au quotidien, de la gestion de tes agents, de la police municipale, d'un budget, des choses comme ça, est-ce que tu penses que tu es un chef d'entreprise ? Est-ce qu'on peut voir une mairie comme une entreprise, comme je disais, avec un CDD ou le chef, toi, tu es en CDD renouvelable.
Alors, faut rester humble par rapport à ce terme-là, parce que je ne suis pas en tant que tel chef d'entreprise. Ça, c'est très clair. Je ne dirige pas une entreprise aujourd'hui. Après, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise, et quand j'échange avec eux, et y compris les remarques que peuvent me faire les gens, comme tu l'as fait là, me renvoient à cette idée que ça peut se rapprocher de la vie d'un dirigeant d'entreprise. Parce qu'effectivement, on gère un budget. J'ai des dépenses, j'ai des recettes. Un modèle économique bien particulier, parce que c'est pas celui d'une entreprise. Moi, je ne vends rien. Ensuite, je gère des salariés avec un statut particulier. Ce sont des agents de la fonction publique territoriale. Il n'en demeure pas moins que ce sont des salariés. Et donc, on gère des ressources humaines. Ensuite, j'ai des projets, comme une entreprise a des projets. J'ai des partenaires, comme une entreprise a des partenaires. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que je ne prends pas de risques financiers personnels.
Ouais.
Et c'est là que ça exige aussi d'être responsable, parce qu'on dépense de l'argent public. Et donc ça, j'y suis aussi très... très attentif. Voilà, donc oui, beaucoup de choses renvoient à un chef d'entreprise. Après, il y a aussi l'état d'esprit en termes justement de prise de risque sur des projets, même si c'est des risques de nature différente. Le fait de vouloir insuffler une dynamique, le fait d'admettre qu'on a un modèle économique, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les communes, à mon avis. Certains n'ont pas intégré cette notion-là, ce que je trouve dommage, s'ils veulent garantir leur avenir, vu que les financements peuvent évoluer. Donc, oui, je me sens un petit peu chef d'entreprise, mais je ne peux pas dire que j'en suis un parce qu'aujourd'hui, je n'en suis pas.
D'accord. Est-ce que tu ressens parfois cette... dans ton... Je reviens au chef d'entreprise. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me parlent, c'est de la solitude du chef d'entreprise, parfois d'être seul face à des décisions à prendre pour l'avenir, le futur de leur paquebot, on va dire. Est-ce que toi, il y a un sentiment comme ça, s'approchant de ça vis-à-vis, par exemple, de tes administrés, peut-être, parce que les décisions que tu vas prendre, bah forcément, tu as 4200 personnes. Enfin, non, moins toi, moins ta femme, moins ta fille. Mais tu as 4200 personnes qui sont capables de venir te dire « Hey, je suis pas d'accord. »
Oui.
Tu vas avoir tout ça sur le dos. Est-ce qu'il y a une sorte de pression, une sorte de... je sais pas, de...
Ah bah, il faut savoir, de manière générale, gérer, oui, certaines formes de pression... Il faut gérer certaines formes d'ingratitude. Il faut gérer tout ça. Il faut gérer, quand on est élu, les gens qui peuvent ne pas vous apprécier.
Oui.
Et donc, si on n'est pas prêt à faire face à ça, c'est sûr qu'il vaut mieux pas être élu. Si on n'est pas prêt à relativiser et à savoir prendre sur soi, faut pas être élu. Après, par rapport à la solitude que peut ressentir parfois un chef d'entreprise sur des décisions, je pense, alors je sais pas si c'est de la solitude, mais une prise de conscience que l'on prend à titre personnel des décisions qui vont marquer durablement un territoire, ça, oui. Mais ce qui me réconforte et me rassure, c'est la conviction que ça s'inscrit dans un cadre d'intérêt général. Alors après,
défini par toi.
Chacun a sa vision de ça. Mais si on est à l'aise avec ça et qu'on se regarde dans la glace en se disant « Oui, je sais très bien que ça s'inscrit dans un cadre d'intérêt général », ça aide à bien le vivre.
Et puis a priori, tu n'es pas tout seul vu que tu es un conseil municipal.
Évidemment. Là, je parle de l'impulsion.
Ouais. De toi qui...
De l'impulsion, de la prise de décision... Parce que les gens ne le savent pas, ça, pour le coup. Mais Arnaud, lui, il le sait. Quand on prend une délibération, d'ailleurs, que ce soit, dans quelle que soit la collectivité ou l'établissement public qui gère ça, enfin, qui gère des choses, à la fin d'une délibération, il est toujours écrit... j'ai plus la formulation exacte, mais en gros, donne pouvoir au maire pour signer tous les actes qui... Bon. Et donc, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui signe.
Ouais.
Il y en a un qui signe, il y en a un qui s'engage. Souvent, le conseil municipal vient donner une autorisation de signature. Bah oui, on va prendre une décision. Et là-dessus, oui, de toute façon, j'ai plutôt tendance à assumer ce que je fais. Donc, j'ai pas de difficulté avec ça. Je me sens seul parce que je suis pas seul à la mairie, parce que je suis pas seul dans ma vie. Et d'ailleurs, ça contribue énormément à l'équilibre, le fait de se sentir bien dans sa vie.
D'accord. Est-ce que quand tu es arrivé à la mairie de Duclair, quand tu étais élu, il y a des facettes, des métiers, des choses que tu n'avais pas imaginées et que tu as découvertes et qui t'ont marqué?
J'ai découvert plein de choses. Et j'en découvre encore. Et heureusement, je me mets dans une posture qui consiste à apprécier ces découvertes d'une manière ou d'une autre. Ce que j'ai découvert notamment, c'est que moi qui suis issu d'un parcours de droit, je connais l'importance de l'écrit.
Ouais.
Et j'ai constaté que beaucoup de choses étaient faites en se tapant dans la main. Et donc, la collectivité, parfois, était engagée, bon an, mal an, sans que ce soit
là,
vraiment
ouais.
écrit par « on fait comme ça ».
C'est à l'ancienne, on va dire.
Alors, ça, c'est, là, pour le coup, c'est un peu à l'ancienne et ça correspond vraiment, vraiment, vraiment pas à ma culture. C'est-à-dire que, pour moi, il faut que l'engagement soit clair, soit matérialisé,
acté.
Parce que derrière... il ne faut pas négliger ça. Derrière, il y a une prise de responsabilité. Et il faut quand même pas être... faut quand même faire attention. Faut quand même faire attention.
Oui, pour ce qui engage la ville, je comprends que ça peut être un peu...
Oui, ça peut engager le maire très loin. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement...
Qu'est-ce que tu risques,
faut que les choses soient claires. Un maire risque plein de choses.
En fait, t'as des devoirs, t'as des responsabilités, mais qu'est-ce que tu risques si... Parce que c'est aussi cette question à laquelle je pensais, c'était quand il y avait eu les inondations dans la vallée de la... Vallée de la Vésubie. Mmh. Et je me suis dit, pour le maire... Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être parce que je suis trop sentimentale, mais je me suis dit, t'imagines ta commune qui est ravagée par un désastre environnemental, etc. Comment tu gères ça? Enfin, je veux dire, niveau de...
Je pense qu'il y a plusieurs volets.
Ouais,
en fait.
Ma question, c'est vrai que c'est parti un peu...
Non, mais la première chose, c'est qu'évidemment, tu dois être, touché au cœur parce que c'est ta ville et que tu l'aimes. Et que... Donc, ça doit être assez terrible. Et puis, en plus, tu vois des gens qui souffrent, qui sont eux-mêmes tristes. Et qui... Bon, donc ça doit être... Évidemment, moi, j'ai pas eu à connaître ce genre de situation extrême, mais j'imagine que ça doit être... Moi, j'ai connu des inondations, mais pas des inondations avec des victimes ou ce genre de choses, ou des effondrements énormes.
Ouais.
Bon, mais... Duclair a connu des très fortes inondations dans le passé, mais moi, je n'étais pas encore... On est à la rencontre de la Seine et de l'Ostreberte, une rivière, et donc... on est très exposé au risque d'inondation. On a connu de très fortes inondations dans le passé. Moi, je n'étais pas maire à l'époque, donc je ne l'ai pas vécu en tant que maire. Depuis que je suis maire, on a eu des débordements de Seine très importants, mais on n'a pas eu de débordement de la rivière. C'est par là que sont venues les principales inondations, en tout cas les plus marquantes pour notre commune. Et donc moi, je n'ai pas connu d'épisode dramatique de ce genre-là. J'ai connu des gros incendies, j'ai connu des choses évidemment qui marquent la vie d'une commune, mais je n'ai pas connu des drames comme on peut les voir parfois aux informations. Donc, mais je peux imaginer que ça doit être terrible. Et en même temps, je pense que s'il y en a un, et ça vaut dans les situations graves et dans les situations qui le sont beaucoup moins, s'il y en a un qui doit garder la tête froide au moment de gérer les choses, c'est le maire. Parce que si le maire, mais je veux dire, et ça pour le coup, c'est pareil pour un chef d'entreprise, c'est pareil pour n'importe qui face à une situation de crise. Il faut garder la tête extrêmement froide. Il y a des plans qui sont envisagés. Et puis après, il y a le rôle que jouent les uns les autres. Ici, la sécurité civile. Ici, les gendarmes, les pompiers. Enfin bon, bref, les différents services de l'État, etc. Chacun doit bien rester dans son rôle et puis ça permet de faire face de la meilleure manière qui soit à des situations quelles qu'elles soient. Donc je pense qu'il faut, oui évidemment on est touché, mais il faut savoir garder la tête froide, ça c'est essentiel.
Et au niveau de ce que tu risques, qu'est-ce qui peut te tomber dessus
Ça dépend du type de problématique dont on parle. Il faut faire attention. C'est pour ça d'ailleurs que notamment les maires signent beaucoup de permis de construire ou par délégation, parce que moi c'est souvent mon adjoint en charge de ces sujets-là qui signe par délégation. Mais quand vous signez, il y a un avis d'un instructeur qui va dire oui, donc en gros toutes les cases sont cochés sur la défense incendie, sur les réseaux, sur ceci, sur cela, sur les règles d'urbanisme XY, sur les questions environnementales. Bon. Et vous signez. Si vous avez bien respecté les préconisations du service instructeur, a priori, je ne sais pas où il pourrait y avoir une difficulté, voilà. Sauf s'il y avait quelque chose de manifestement important qui n'aurait pas été pris en compte. Bon. Mais vous signez. Bon. Imaginons que le service instructeur dise que la défense incendie n'est pas assurée. Et que vous dites... Et donc, il vous donne un avis négatif. Et que vous dites, non, moi, je soutiens. Et donc, je signe. Et que, parce que normalement, derrière, il y a la préfecture qui passe. Ouais. Et normalement, ça peut pas aller jusqu'au bout. Ouais. Mais imaginons que ça aille jusqu'au bout, pour X raisons. Et imaginons que demain, il y a un incendie. Même si la famille qui est dans la maison, c'est la première à vous avoir demandé de signer, parce que eux, leur souhait à ce moment-là, c'est d'avoir leur maison à cet endroit-là. Vous prenez quand même une responsabilité immense, si derrière, il y a des victimes. Et là, ça peut effectivement mal se terminer. Mais je pense qu'il y a la responsabilité du point de vue du droit, mais il y a aussi la responsabilité, évidemment, c'est la première, même vis-à-vis des personnes. Vous ne pouvez pas raisonnablement signer un papier où on vous dit que la défense incendie n'est pas assurée et encourager des gens à construire. Mais pareil pour le cas des inondations.
Oui, bien sûr.
Mais il y a plein de cas comme ça. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent engager la responsabilité d'un élu, de toute des choses de plein de nature, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a évidemment plein de choses. À chaque fois qu'on signe,
tu peux avoir l'œil sur
responsabilité.
Tout. Ou non, heureusement qu'il y a des adjoints, il y a tes adjoints, parce que est-ce que sur une commune comme Duclair, tu peux avoir l'œil sur tout ce qui passe en mer?
Non, on ne peut pas tout voir. Bon, déjà, il y a des délégations. Ensuite, vis-à-vis d'élus, il y a des délégations vis-à-vis d'agents. On ne peut pas tout voir, non.
Ce qui arrive sur l'importance, ton bureau, c'est les dossiers les plus...
C'est ceux qui exigent vraiment que ce soit une signature du maire.
Ok.
Et après, j'essaye d'être au fait du plus de choses possible, mais je peux pas tout savoir, et d'où l'importance d'avoir confiance dans les équipes qui m'entourent.
Tu parlais tout à l'heure de ta famille. Mm-hmm. Du coup, quand tu as été élue, donc tes parents, ta femme, quand tu as été élue, comment ça s'est organisé, la vie de famille? Comment ils l'ont pris? Comment eux, leur vie s'est transformée? Est-ce que ça change quelque chose?
Alors, c'est évidemment ma compagne qui connaît la plus grande transformation. C'est après, les autres, oui.
Ils sont très fiers de toi.
Ils sont, bon, voilà, mes parents, mes grands-parents sont fiers de moi. Mais au-delà de ça, ils peuvent avoir parfois des retours. Alors, pour eux, ce qui peut être désagréable, c'est d'entendre quelqu'un qui va être désagréable avec le maire. Parce que sur les réseaux sociaux, on entend une minorité criante. Et donc, et ça, les gens de notre famille peuvent le voir. Et ça, c'est pas agréable pour eux. Bon, heureusement, j'allais dire, c'est quelque chose d'infime dans la manière dont ils peuvent vivre les choses. Mais la personne qui connaît la plus grande transformation, c'est effectivement ma compagne. ce que je dis toujours, c'est... elle savait que je souhaitais m'engager. Donc, il n'y a pas de surprise.
Vous en aviez discuté avant pour...
Quand elle m'a connu, on s'est connu au moment d'une campagne.
Ah bon, voilà.
Donc, elle savait que j'étais...
Ça vous mettait les pieds.
Que j'étais là-dedans, voilà. Donc, donc, bref, on s'est connu à ce moment-là. Et donc, il n'y avait pas de surprise. Par contre, après, quand on dit... tiens, je vais me présenter aux élections régionales ou suis candidat aux élections législatives... Forcément, il y a des discussions. Il y a des discussions parce que, encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de l'équilibre. Et là, je reviens au chef d'entreprise, le chef d'entreprise qui est énormément pris, qui voyage, etc. À un moment donné, je pense que de la même manière, toute personne extrêmement prise dans sa vie se pose la question des relations avec sa famille. J'étais hier avec le directeur général d'une très belle entreprise française qui en parlait d'engagement et qui me disait qui à un moment donné renvoyait à sa famille en disant « j'ai aussi ma famille ». Et finalement, c'est plutôt rassurant, quelqu'un qui vous dit « j'ai aussi ma famille ». Ça veut dire qu'il a des soupapes, qu'il a autre chose, qu'il se...
C'est pas juste...
Voilà, que sa vie est faite de volets différents, mais qui sont essentiels.
Tu te vois autre chose que mère? Est-ce que... Parce que si je fais le parallèle...
Tu ris parce que tu vois mon sourire, c'est ça?
Non, mais parce que, par exemple, moi, une question que je me pose, c'est quand tu étais à l'UMP à quelques encablures d'Armanin ou voilà, etc., tu dis que ces gens-là avec qui tu travaillais, avec qui tu partageais ton quotidien, sont maintenant des ministres, voilà, ou ont des postes comme ci, comme ça. Est-ce que tu te vois dans une fonction pas forcément d'élu, parce que ces gens sont pas forcément... En France, parce que moi, j'étais au Canada, mais au Canada, pour être un élu, quel que soit un ministre ou un premier ministre, il faut absolument que tu aies un mandat. Sinon... Ouais. Si tu perds, ouais, t'es pas au moins député, tu perds ton poste, tu sors de la Chambre des communes. En France, t'as pas forcément besoin d'être élu pour être ministre ou pour être voilà. Est-ce que toi tu te vois dans une autre fonction que maire?
Je me projette dans rien et je
t'as pas une ambition.
Je me projette dans rien et je ne m'interdis rien. C'est comme ça que j'ai toujours envisagé les choses. Enfin, bien malin, celui qui pourrait affirmer que sa vie sera faite comme ça. Moi, j'ai 39 ans, pas encore 40. 39 ans qu'est-ce que je peux... J'ai aucune certitude. Est-ce que je serai encore maire lors d'un prochain mandat? Peut-être, peut-être pas. Déjà, peut-être qu'il faut que j'ai envie dans un premier temps. Ouais. Et puis, faut que les gens aussi aient envie. Et puis, est-ce que ma vie, mon engagement politique se poursuivra? Peut-être, peut-être pas. Et finalement, le fait de ne pas avoir de certitude, c'est la chose qui me rassure le plus. Parce que... le fait d'avoir des certitudes, je trouve que c'est la meilleure manière de se sentir condamné. Je savais pas ce que je ferais, ouais. et ce que je fais aujourd'hui, je le vis très bien.
Tu découvres à chaque fois.
À chaque fois,
je découvre. C'est une aventure, en fait.
Je savais pas. Très honnêtement, il y a un an et demi, je pensais pas particulièrement régional. Est-ce que je serais candidat régional? Je savais pas.
Je dis pas que ça pouvait
pas me traverser l'esprit, mais je me disais pas, voilà. Je vais faire ça. Et puis dans deux ans, je ferai ça. Et puis là, Non. Je fais au mieux ce dans quoi je suis engagé aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai demain? J'en sais rien. Peut-être que je ferai la même chose. Peut-être que je ferai des choses différentes. Peut-être que j'aurais lancé une fabrique de biscuits et j'exporterai mes biscuits en Argentine,
ouais.
Et que ça occupera ma vie et que je passerai mon temps à faire des allers-retours entre la France et l'Argentine, je n'en sais rien. Et peut-être que ce sera jamais ça, voilà.
Si on revient un petit peu sur le comité Richelieu, comment tu répartis ton temps, en fait? De quoi est fait ton job de délégué général?
Il y a plusieurs actions qui m'occupent. On a évidemment la poursuite de notre observatoire parce que on est passé vite tout à l'heure sur l'observatoire, mais c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant pour le comité et j'allais dire pour notre pays, parce que savoir ce que pensent les entreprises innovantes de la politique publique en faveur de l'innovation en France, c'est pas négligeable. Si on veut aller dans le bon sens, si on veut bien faire les choses, si on considère que l'innovation peut jouer un rôle fondamental dans notre pays, autant au service des défis à relever que du point de vue du développement économique, bien, si on pense que l'innovation a un rôle important, on ne doit pas négliger la politique publique en faveur de l'innovation. Et pour ne pas la négliger, alors, on regarde un certain nombre d'indicateurs, très clairs.
Puis tu fais appel à différents groupements dans différentes régions qui consultent leurs membres, qui sont des chefs d'entreprise, qui font remonter leurs préoccupations, leurs questions, les grands sujets qui sont importants pour eux. Et après, vous faites un joli document.
On fait un joli document. Alors, on lance une enquête. On lance une enquête auprès des entreprises innovantes de manière générale, en lien effectivement avec des partenaires partout sur le territoire. Et puis de là, alors ce qui est intéressant dans un observatoire, c'est que ça s'inscrive dans le temps. On l'a engagé en 2013, on est en 2022, notre dernière édition est donc de 2021. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder dans le rétroviseur et de se dire que pensaient les chefs d'entreprise de la French Tech, des règles d'achat public innovants, du C2I en 2014. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui ?
Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'ils ont perçu une évolution ou pas ?
Et ben c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que, oui, ils ont perçu une évolution. Que, oui, tel ou tel dispositif qui n'existait pas, aujourd'hui, faudrait certainement pas revenir dessus parce que c'est devenu un dispositif important et que les chefs d'entreprise considèrent que ça a un impact positif sur leur activité. Donc, l'observatoire, il permet de voir ça. Il permet de voir ce qui semble passer au deuxième plan, ce qui passe au premier plan, ce qui est au cœur. Et d'ailleurs, une chose qu'on constate, et ça c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, je vais comparer deux choses. Et je trouve que c'est un enseignement qui devrait nous inspirer globalement. C'est pas le seul sujet, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, je le trouve intéressant. La French Tech, c'est pas du cash sur la table. En tout cas, c'est pas ça avant tout. La French Tech, c'est finalement du réseau, c'est une image, c'est de la com, c'est un état d'esprit, c'est plein de choses, mais ça n'est pas du cash sur la table. Ou en tout cas, si ça l'est, c'est vraiment à la marge. Et c'est présent globalement dans tous les territoires.
Oui.
Les Horizon 2020, les anciens PCRD, tout ce qu'on veut bien, c'est des milliards sur la table. Ok. Et bien pourtant, quand on interroge les chefs d'entreprise sur l'un et sur l'autre, et bien celui qui est le plus populaire, c'est pas Horizon 2020. C'est-à-dire que le truc le plus populaire, c'est pas le truc où on met du cash sur la table. Et finalement, je pense qu'un des défauts, par exemple, d'un Horizon 2020, c'est certainement des outils bien pensés, tout ce qu'on veut bien. Mais ils ont une dimension, inévitablement et malgré tout, hors sol. Et c'est la grosse différence,
aussi.
Mais c'est ça, c'est lourd, il y a un côté hors sol malgré eux, et donc c'est là qu'on se rend compte que la proximité, les territoires, les réseaux et l'état d'esprit, c'est parfois plus important que de venir déverser de l'argent, ou en tout cas de l'argent sous forme d'aide. Ce que veulent les uns les autres, c'est que des dynamiques soient créées ici et là, c'est qu'on les comprenne et que derrière, ça c'est l'autre volet, mais qui est évidemment important, c'est qu'il y ait de l'achat. Et donc, cet observatoire nous permet notamment d'en arriver à ce type de conclusion. Et en ça, je pense qu'il est important, si des candidats à l'élection présidentielle nous écoutent, le comité Richelieu est prêt à les écouter. Et si des chefs d'entreprise veulent porter cette parole, qu'ils nous rejoignent pour la porter, on est prêt à porter des messages comme ça, comme plein d'autres, beaucoup plus pratiques et techniques pour eux. Mais je pense en tout cas, moi je suis convaincu que le comité Richelieu joue un rôle important aujourd'hui dans le pays parce qu'il n'y a pas 36 organisations qui se penchent de manière extrêmement précise sur la vie des entreprises innovantes au quotidien.
C'est pour revenir sur Horizon 2020, c'est là où je trouve que le ministère des Armées, notamment la SDPME, la sous-direction PME, fait un travail assez, quand tu disais prendre son bâton de pèlerin et prêcher la bonne parole, il y a toute une équipe dédiée aux Minarmes qui essaye de, avec ce gros truc communautaire européen un petit peu lourd et plein de démarches administratives un peu obscures, essaye d'intéresser les startups et les PME françaises justement pour se lancer dans l'aventure européenne, mais de façon encadrée, aidée, et pas lâchée dans la nature avec un truc.
Je pense que finalement, ce que fait le ministère des Armées et la SDPME, c'est de finalement casser l'aspect hors-sol.
Ça.
Parce que finalement, il se présente comme un maillon. Et en fait, finalement, quand il y a quelque chose qui est hors-sol, ce qui manque, c'est le maillon qui crée le lien entre le hors-sol et le sol. et donc, finalement, je pense que le Minarme joue ce rôle-là. Il le fait, et c'est un ministère à part, le Minarme, parce que culturellement, il s'est engagé dans ce type de démarche depuis longtemps maintenant.
Le pacte PME, permet, ça a changé, non ?
Le pacte défense
pacte
PME.
Pacte défense
qui s'appelle
PME,
maintenant
pardon.
Action PME. Et un des autres grands messages du comité Richelieu d'ailleurs, c'est de dire surtout ne remettez pas en cause ça. Parce que parfois, il y a des dispositifs qui sont là, on en parle, puis à un moment donné, on oublie, et puis finalement, à un moment donné, il n'existe plus le dispositif.
C'est ça.
Sauf qu'il joue un rôle. Et donc, un message qui est aussi très important côté comité Richelieu, vis-à-vis du ministère des Armées et de tous les responsables politiques qui s'intéresseront à cette question, c'est ne me remettez pas en cause ce dispositif essentiel qui pourrait même être étendu à d'autres domaines, ouais, qui est Action PME, qui vise à se pencher sur cette relation entre les grands groupes et les PME, mais aussi le ministère et les PME. Cette relation, elle est essentielle parce que les PME, comme je le rappelle souvent, elles sont partout sur le territoire, elles créent des emplois, elles délocalisent pas. Ce qui n'est pas toujours le cas d'un certain nombre de grands groupes, il faut quand même le rappeler, pas dans tous les domaines, mais si on regarde au cours des dernières années, il y a eu un phénomène de délocalisation, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas les PME qui en sont la cause.
Tu parles beaucoup de réseau et de l'importance du réseau. C'est vrai que quand on regarde les gens qu'on peut rencontrer en étant membre du comité Richelieu, c'est quand même assez impressionnant. Des ministres, des conseillers ministériels, enfin des gens très très haut placés. Vous organisez des petits déjeuners ou des dîners, des choses comme ça. Comment t'expliques cette capacité du comité Richelieu justement à intéresser, à attraper ces gens-là, enfin à faire venir ces gens-là se déplacer pour s'adresser à des chefs d'entreprise réunis en plus en petit comité. Ouais.
Oui, on organise régulièrement ce qu'on appelle des plénières, des dîners. Alors évidemment, on parle hors Covid, mais on organise ça. On a reçu de cette manière-là Bruno Le Maire, ouais, Muriel Pénicaud, Frédéric Vidal, Florence Parly. On en a reçu beaucoup, et j'en passe. Agnès Pannier-Runacher, ouais, en 2020, en février 2020, juste avant.
Ouais, c'est ça.
Juste
la
avant.
Dernière.
C'était la dernière. Et oui, alors, j'allais dire c'est historique, parce que le comité, il a une légitimité dès lors qu'il prend la parole sur les sujets qui le concernent, depuis les entreprises innovantes jusqu'aux entreprises PME de défense. Il a une légitimité lorsqu'il prend la parole. Et donc, de ce fait, lorsqu'ils sollicitent tel ou tel responsable, eh bien, ils viennent. Et à chaque fois, ce qu'on propose, c'est évidemment une rencontre avec notre écosystème qui va au-delà des dirigeants d'entreprises innovantes, mais tout particulièrement avec les dirigeants d'entreprises innovantes.
Bon, on l'a compris quand on écoute ton parcours.
Ouais.
Tu es un homme très occupé.
Ouais.
Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas ?
Ah, j'adore cette question parce qu'elle renvoie à quelque chose que... Alors, qu'est-ce que je fais ? J'aime monter sur mon vélo,
okay,
mais alors pas en mode grand sportif, mais en mode je me balade.
Okay.
Mais au passage, je prends mon vélo dès que je peux pour me déplacer. Je fais partie de ceux qui... voilà, et puis c'est pas qu'un effet de com'. Moi, j'aime monter sur mon vélo. Je n'aime pas prendre ma voiture. Dès lors que je peux ne pas la prendre, je ne la prends pas. Première chose. Et puis ensuite, quand j'adore être dans mon jardin, m'occuper de mes plantes, de voilà, et j'aime aussi beaucoup, 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 et j'arrive à trouver du temps, c'est fou, on ne croira pas, mais j'adore cuisiner, donc moi je cuisine et je suis dans mon jardin, voilà, et puis évidemment j'aime voyager, j'adore l'Italie, dès lors que je peux partir un petit peu, j'y pars, mais dès que je trouve du temps, là où je trouve de bonnes respirations, c'est à sortir dehors.
Est-ce voilà. que tu as un plat signature?
Ah, le plat signature, ben oui, j'en ai un.
Celui que tout le monde te fait des compliments, genre c'est ton truc.
Ah,
c'est
celui que je travaille, que je pousse, que je veux vraiment que ce soit authentique, etc., etc., etc. Ce sont les lasagnes.
Les lasagnes ?
Ouais.
Végétarienne ? Non, je plaisante.
Non, pas végétarienne. Non, trois types de viande d'ailleurs. Du veau, du bœuf, du porc. Ne jamais oublier les carottes, ne jamais oublier le céleri.
D'accord.
Voilà, surtout... Non, bah ouais, mais c'est justement là, faut aller à l'essentiel. Faire cuire la viande dans un litre de vin. Voilà, parce que c'est un ragoût qu'on prépare avant de faire nos lasagnes.
Ah oui.
Donc, je fais des lasagnes. C'est un peu. Ça
là, c'est un niveau olympique là.
Olympique, je sais pas, mais en tout cas, un niveau où je me fais plaisir et j'essaie de faire plaisir aux gens autour de moi.
Ok, voilà. Je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais t'es devenu papa aussi il y a pas très très longtemps.
Je suis devenu papa, voilà, d'une charmante,
elle est trop mignonne.
Petite fille.
Elle est trop belle.
Voilà, qui. Je sais plus, j'entendais l'autre jour, enfin bon bref, on le sait tous que on n'imagine pas à quel point le cœur est extensible et effectivement le cœur est extensible, ça c'est on a la preuve le jour où il y a un petit être qui arrive dans la famille, dans le foyer, et donc je suis un papa absolument fan, et donc j'ai un travers, et pareil, on va me prendre pour un fou, mais depuis 10 mois que ma petite fille est là, elle n'a jamais mangé un petit pot industriel avec ma compagne, on lui fait tout, et elle a toujours une compote fait maison. Elle n'a jamais mangé une compote industrielle. Et j'y tiens parce que voilà, c'est préparé par papa et maman et ça me fait plaisir.
Et comment tu arrives à gérer ? Est-ce que au début, c'était facile de gérer la mairie, le comité Richelieu, la Normandie, enfin la Normandie, la région Normandie, ouais. La métropole de Rouen, etc. Et Mistinguette.
Il y a une chose que je ne néglige rien, mais il est certain que je négligerai jamais ma fille et ni ma compagne, ni j'allais dire le premier noyau essentiel qu'est la famille. Et donc non, je trouve le temps. Faut juste pas, en fait, quand je t'écoute, Marjolaine, faut juste pas que j'y pense trop à tout ça. Faut juste que je le vive, que je le fasse. Parce que si, et comme beaucoup de personnes bien occupées, si on se met à trop intellectualiser
le fait
d'être occupé, là, on va faire des crises de panique.
Tu vas te sentir
donc,
débordé.
Donc, pas de crise de panique. Donc, il faut, voilà.
Tout va bien.
On respire, on prend un grand verre d'eau et on avance.
Et puis, on va faire du vélo au bord de la Seine, dans cette jolie ville de
J'encourage d'ailleurs, parce qu'il faut finir comme ça.
Déjà, bien sûr.
J'encourage tous les chefs d'entreprise innovantes à rejoindre le comité Richelieu parce qu'ils y ont leur place et que, voilà, et on les attend. Et deux, j'encourage tous ceux qui sont prêts à prendre la route, à la prendre et à aller à Duclerc, cette très belle ville de Normandie où ils verront qu'on a un magnifique bord de Seine avec une vue sur les falaises. Et ils comprendront en arrivant à Duclerc pourquoi le mouvement impressionniste est né.
Pour conclure cet épisode, normalement c'est la question traditionnelle. Ah. Je demande à tous mes chefs d'entreprise un conseil. S'il y a des auditeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans une charge d'élu, quels sont les petits conseils que tu leur donnerais pour faire les choses pas trop mal? Donc, je ne sais pas si tu veux répondre du côté de l'entreprise ou du côté de l'engagement politique, mais vas-y,
mais
fais-toi plaisir.
Dans un cas
comme dans l'autre,
je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit précédemment, mais dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'il faut lever le nez du guidon et en même temps être prêt à baisser la tête pour foncer. Faut négliger ni l'un ni l'autre et puis toujours le faire avec sincérité, voilà, et puis ne jamais avoir peur finalement de franchir un cap ou de marquer un pas, enfin il faut y aller, il faut avancer, voilà.
Et puis il faut être un slasher.
Voilà, oui, vive les slasheurs.
Merci beaucoup Jean de m'avoir accordé ce long moment.
Merci à toi,
je te souhaite le meilleur.
À
Et
toi
puis
aussi.
Je te dis à très très bientôt.
Idem, à bientôt.
Bye bye.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format sur les réseaux sociaux du podcast. Comme d'habitude, un article dédié à Jean est disponible sur le site internet de Slice au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve le 7 avril pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. À bientôt !